à Rencontre spirituelle, aujourd'hui une émission bien spéciale. J'espère que ça ne troublera pas les gens. Il faut jamais écouter ces sujets-là autrement qu'avec beaucoup d'objectivité, de simplicité. C'est les stigmates, hein? Les stigmatisés. Est-ce que c'est un phénomène purement maladif ou si c'est un phénomène vraiment spirituel? C'est un problème difficile, mais quand on lit quelques ouvrages sur la question, il y en a un qui vient de paraître, Trois stigmatisés de notre temps, de Jean Barbier, c'est Thérèse Neumann, Padre Pio et Marthe Robin. Et il y dit à la page 115, pendant 51 ans, toutes les semaines, Marthe Robin, que je vous ai déjà fait une émission sur elle, hein, elle est morte en 1981. Eh bien, Marthe Robin revivra pendant 51 ans la passion. Elle est dans un bain de sang, mais en même temps, écoutez bien, dans un océan d'amour, c'est ce qu'elle dit, hein, océan d'amour et de lumière qui la liquéfie. Elle ajoute, je suis comme une éponge dans l'océan d'amour. Elle a un sens tellement précis de la rédemption qu'elle ira jusqu'à dire, ô justice éternelle de la sainteté de mon Dieu. Et c'est très curieux, elle ajoute, dédommagez-vous de la gloire que vous ont ravi Lucifer et après lui toutes les âmes coupables. Comme si on pouvait ravir ou endommager la gloire de Dieu. C'est une façon de parler, car son seul but, c'est que partout fleurissent la foi et l'amour. C'est ça le problème. En raison de leur sainteté, de l'héroïcité de leur vertu, hein, qui a fait de nombreux stigmatisés des apôtres de l'amour, justement, mais l'Église a canonisé depuis Saint François d'Assise une vingtaine d'hommes ou de femmes, pas plus que ça, une vingtaine d'hommes et de femmes qui ont porté les marques de la passion du Christ. Il n'y a peut-être jamais eu de par le monde autant de stigmatisés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire d'hommes et de femmes qui portent les marques de la passion du Christ. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on peut se demander s'il n'y a pas une part de maladie psychosomatique. Le docteur Imbert Courbert, qui a écrit un ouvrage important il y a un peu plus de 100 ans, a répertorié, lui, à son époque, il y a 100 ans, 320 stigmatisés depuis Saint François d'Assise, qui a vécu, comme vous savez, très brièvement, là, de 1186 à 1226, donc 40 ans à peu près. Et il y a un livre très récent qui est paru dans la collection Bref, que vous connaissez peut-être, publié chez Fides et Auxerre en même temps à Paris. Ce livre, c'est un livre de Joachim Boufflet, Les stigmatisés. Aussi, à peu près 126 pages. Ça coûte à peu près $15. Et ça fait le point sur la question épineuse et fascinante, là. Et lui, monsieur Joachim Boufflet, il nous dit en avoir recensé seulement 137 pour le seul 20e siècle. Seulement, c'est beaucoup. Et encore, ce recensement ne serait pas absolument exhaustif. Alors, il y a quelque chose qui tourne pas rond, peut-être. Hein? C'est trop, me semble. C'est trop. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais peut-être que sont tous authentiques. Qui sait? Je ne sais pas. Ces stigmatisés appartiennent à 26 nations différentes, dit M. Boufflet. Et parmi eux, 23 Français, 4 actuellement vivants et 19 décédés en France. Parmi les 45 stigmatisés actuellement vivants dans le monde et dont la stigmatisation serait incontestable, on compte 13 hommes et 32 femmes, paraît-il. Un des hommes serait même un prêtre, Gino Borresi, qui est né en 1932. Les autres sont des laïcs, dont 5 sont mariés et pères de famille, et sur les 28 autres, bien 13 sont mariés, eux, et mères de famille. Alors, Joachim Boufflet, dans son livre, explique que ces marques insolites, qu'est-ce que c'est que des stigmates? Vous savez ce que c'est tous, je crois. Ce sont les marques qu'a subi le Christ en croix, c'est-à-dire des plaies qui sont venues des clous dans ses mains et ses pieds, et les marques de la couronne d'épines, c'est souvent celle parfois de la flagellation, mais en particulier celle de la lance qui a transpercé son cœur. Parfois, la marque est à droite, comme c'est dit dans les évangiles. Parfois, elle est à gauche, du côté même du cœur, ce qui indiquerait que ça n'est pas psychosomatique, puisque si c'était psychosomatique, la contemplation du Christ transpercé du côté droit ferait que la marque serait à droite, mais parfois la marque est à gauche, disent certains grands psychiatres. En somme, trouver la signification de ces marques, c'est là la question. C'est la seule question qui se pose au sujet des stigmatisés. Le reste, c'est de la curiosité. Et c'est pas nécessaire. Dès lors que l'on répond à la question « qu'est-ce que ça veut dire ?», toutes les autres interrogations sur l'origine de ces plaies n'ont plus de raison d'être. Le signe s'explique par sa signification, et je vous l'ai dit dès le début, par les paroles de Marthe Robin. Il me semble que c'était clair. C'est pas nécessaire d'insister, n'est-ce pas? Elle est dans un bain de sang, mais en même temps dans un océan d'amour et de lumière qui la liquéfie. Je suis comme une éponge dans l'océan d'amour. C'est l'essentiel. Certains êtres humains qui portent comme ça des marques dans leur chair, ça varie selon les sujets, mais il n'y en a qu'un petit nombre finalement. Deux points du corps, là, sont toujours les mains, les pieds, le côté, le front. Et l'apparition de ces marques, ces espèces d'altérations dans la chair, qu'on appelle stigmates, ça s'inscrit dans le contexte d'un tout un mouvement de ferveur religieuse spéciale, dont l'objet se réfère à la passion du Christ où l'amour de Dieu nous est prouvé, puis à ses plaies. C'est par là que le phénomène intéresse la spiritualité. Le mot français stigmate vient du latin, je le spécifie, stigmata, qui est le pluriel de stigma. Ça vient du grec. Ça désigne un signe imprimé sur le corps au moyen d'un instrument pointu comme le tatouage, le fer rouge. Il est stigmatisé. Mais chez les peuples ou d'autrefois, de l'Orient antique, les Égyptiens, les Syriens, etc., les Éthiopiens, bien, c'était la coutume d'avoir des marques faites dans la chair comme signe de l'appartenance à une tribu déterminée ou bien une divinité particulière. Apollon, Dionysios, Hadad, etc. Hérodote, lui, dans l'Ancien Testament, montre la signification de ces signes. Celui qui les reçoit est consacré à la divinité, dit-il. On trouve ça dans ses histoires, publiées par Budé. Mais peu importe, dans l'Ancien Testament, Israël connaît aussi la stigmatisation. Oui, ça existait dans ce temps-là, mais pas dans la façon dont on l'entend. On trouve ça dans Isaïe 44, verset 5, je vous le lis, je l'ai ici dans ma Bible. L'un dira, je suis au Seigneur, un autre voudra porter le nom de Jacob, et tel autre inscrira sur sa main propriété du Seigneur, et sera fier du nom d'Israël. Il inscrira, je répète, sur sa main propriété du Seigneur. Curieux, hein? C'est une façon, une espèce de tatouage. Dans le judaïsme tardif, la circoncision est considérée d'ailleurs comme le sceau de l'alliance du peuple élu avec Dieu par opposition aux stigmates tatoués ou imprimés au fer rouge des cultes païens. Mais peu importe, on sait que saint Paul aussi a parlé de ça. Paul voit dans ses stigmates, quand il dit « Désormais que personne ne me cause d'ennui, car je porte dans mon corps les marques, les stigmata, dit-il, de Jésus. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il voit dans ses stigmates des signes qui prouvent son appartenance au Christ, dont la protection lui est par là garantie. Alors, on ne doit ni ne peut le tourmenter avec des doctrines nouvelles. Il veut appartenir au Christ totalement, puis que toutes les doctrines nouvelles lui passent sur le dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. L'opinion plus commune est que l'apôtre Saint Paul fait ici allusion aux cicatrices laissées dans sa chair par les mauvais traitements endurés par le Christ, probablement. Qu'il ait été stigmatisé, peut-être, qui sait. Mais le sens actuel, de toute façon, du mot stigmate, pour désigner là, les lésions apparues spontanément, puis rappelant les plaies de la passion du Christ, et qui ont marqué le corps du Christ, ne semble pas remonter au-delà du début du 13e siècle. Et un des premiers usages de ce temps, sinon le premier, se trouve, savez-vous que c'est dans une lettre encyclique, sur la mort de Saint François d'Assise, adressée par Élie d'Assise aux frères de l'ordre franciscain, 112-124. Le biographe de Saint François d'Assise, Thomas de Celano, vous avez peut-être déjà lu ça, rapporte que beaucoup purent contempler le corps de François orné de stigmates. Il dit ça. L'Antiquité chrétienne n'a pas connu ce type de phénomène religieux, je le répète. Fallait probablement pour la première stigmatisation, Saint François d'Assise, que ça puisse survenir dans une ambiance spirituelle nouvelle, qui était beaucoup plus axée sur le culte du Christ-homme, puis la dévotion à sa passion. Les orthodoxes modernes, nos frères orthodoxes, se montrent habituellement très critiques à l'égard du phénomène des stigmates qui existe dans notre Église latine depuis le Moyen-Âge. Ça les gêne un peu, parce que eux, ils insistent beaucoup, évidemment, sur le Christ ressuscité. La piété des stigmatisés ferait une telle place aux souffrances par la mort du Christ que sa résurrection et sa glorification s'en trouveraient, disent-ils, reléguées dans l'ombre. C'est ce que pensent les orthodoxes. Il faut faire attention, en effet, de ne jamais oublier que le Christ est vraiment ressuscité. C'est celui-là que nous adorons d'abord. Quand nous pensons à la passion du Christ, nous nous remémorisons la preuve de son amour où il s'est donné jusqu'à la mort. Alors, d'après eux, notre façon de voir, ce serait une vision déficiente et appauvrie. Encore que sincère et fervente, ils ne nous blâment pas. Une vision déficiente de la foi et de la spiritualité chrétienne. D'après ça, c'est l'archevêque Basile qui dit ça. Enfin, peu importe, faut pas se disputer. Dans l'incertitude, mieux vaut sans doute ne pas avancer de toute façon de chiffres au sujet du nombre des stigmatisés, comme je l'ai fait au début. Il y a quelques cas. Je vous parle donc de Saint François d'Assise, qui a reçu les stigmates dans la solitude du mont Alverne à la mi-septembre de 1224. Je vous en ai parlé le 4 octobre 1995. C'est l'émission numéro 113 pour ceux qui veulent la voir. C'est 2 ans avant sa mort, ça, 1224. C'est à la suite de la vision d'un séraphin, un ange, qui portait entre ses ailes l'image d'un crucifié. Puis aujourd'hui, il n'y a pas d'historien qui mette en doute la réalité historique du fait, comme ont fait au siècle dernier certains historiens, ou Ernest Renan. Loin d'exhiber ses stigmates à la manière de certains stigmatisés modernes qui ont l'air de se vanter de tout ça, Saint François lui mettait grand soin à les dissimuler. Même à ses frères franciscains, comme aux étrangers d'ailleurs. C'est ainsi que ses voisins et même ses plus fidèles disciples les ont ignorés longtemps. C'est ce que nous rapporte son biographe Thomas de Celano. Il était très humble. Et seulement après sa mort, on a pu enfin les voir. Et quelle en était la forme? Bien, une question compliquée. Puis les documents donnent 2 descriptions différentes. Quand Élie d'Assise lui ferme les yeux à Saint-François, ses stigmates étaient des blessures qui, de chaque côté de la main et des pieds, formaient... avait la forme, pour ainsi dire, d'une piqûre de clous, conservant des cicatrices et montrant la noirceur des clous. Puis Thomas de Celano, le premier biographe, il parle non de blessures en forme de clous, mais de clous même, constitués par des excroissances de chair. C'est assez curieux. Hein? Alors, je vous ai parlé un peu de Saint François d'Assise, brièvement. Voici maintenant la béguine. Une béguine, c'est une sorte de religieuse, hein, comme on les appelait comme ça. Élisabeth de Spalbeck, qui est morte en 1274, qui présente déjà, elle, tous les traits que l'on retrouvera chez nombre de stigmatisés plus tard. On n'en parle à peu près jamais, c'est pour ça que je vous en parle, c'est assez spécial. La béguine Élisabeth, donc, alitée, ne se nourrissait sait quasiment pas. Elle souffrait beaucoup. C'est une extatique qui mime, semble-t-il, les scènes de la passion. Il y a Philippe de Clairvaux, un témoin oculaire, moine, qui raconte à ses mains, à ses pieds ou ici à son côté, sans qu'on puisse soupçonner aucune espèce de simulation ou de fraude, apparaissent clairement des plaies fraîches qui, souvent et surtout les vendredis, émettent un flot de sang. Aux membres, les plaies sont de forme ronde, celle du côté est oblongue. On trouve ça dans ses textes. Hein. Sur la tête, dit-il, là aussi, comme une couronne de piqûres d'épines rouges de gouttes de sang. Il y a aussi la stigmatisation de Sainte-Catherine de Sienne, dont je vous ai parlé aussi, a lieu un siècle plus tard, en 1375, durant une extase. Hein. Il y a des rayons couleur de sang qui dardaient sur elle, paraît-il, les blessures du Christ qui lui est apparu crucifié. Et ça s'est changé instantanément. Et comme elle suppliait le Seigneur de n'être pas marqué visiblement des signes de la passion, elle voulait pas porter ça, ça s'est changé en rayons de lumière, de pure lumière, au lieu de des rayons de sang. Et puis, ça lui a imprimé aux 5 endroits correspondants du corps, là, non les plaies sanglantes elles-mêmes, ça, elle n'a pas eu de plaies sanglantes, mais des douleurs. Les douleurs de la passion dans les mains, le côté, les pieds. C'est selon les textes de Raymond de Capoue, hein, puis de Thomas Caffarini aussi. Je passe maintenant à un autre, quatrième, c'est une stigmatisée de 1496, dont on entend rarement parler. La bienheureuse, une bienheureuse, Lucia Brocadelli de Nardi, qui est morte en 1544, donc presque 200 ans après Catherine de Sienne. Elle subit en 6 ans 5 inspections de ses stigmates par des gens... qui documente tout ça avec des actes notariés. Vous voyez, c'est il y a près de 500 ans, puis c'est déjà très sérieux. On veut pas se faire jouer, hein. Alors, l'inspection de 1497, donc près de 40 ans avant sa mort, ou plus que ça, 47 ans avant sa mort, a été faite par mandat du pape Alexandre VII lui-même. On lui a bandé, on a mis des sceaux sur les bandages, là, sur ses plaies. Puis, au bout de 9 jours, on les a ouverts et c'est écrit « sans aucune corruption, les plaies étaient sans aucune corruption ou altération, miraculeusement conservées ». C'est tout de même étonnant. Je passe maintenant à Sainte-Catherine de Ricci, qui est morte en 1589, donc elle est morte, disons, 45 ans après, la bienheureuse Lucia. Sainte-Catherine de Ricci contemplait les unes après les autres les scènes de la passion. Puis elle en éprouvait les douleurs. Puis dans une extase, se renouvelait toutes les semaines, puis ça durait généralement du jeudi 18h au vendredi 22h, c'est un peu spécial, hein? Ça commence tout de suite le jeudi à 6h, à l'heure du souper, si vous voulez. Et elle en sortait le corps marqué des signes de la flagellation. Elle avait les signes de la flagellation, de la couronne d'épines puis de la crucifixion. Ça s'est produit pendant combien de temps? Pendant 12 ans, de 1542 à 1554. Elle est morte en 1589. D'autre part, elle aurait eu cette Sainte-Catherine de Ricci pendant 47 ans, jusqu'à sa mort, des stigmates visibles plus ou moins intermittents. Aux mains, c'était une enflure rouge, sans déchirure de la chair. Curieux, hein? Avec au milieu quelque chose de rond, tirant sur le noir, de la grandeur d'une petite pièce de monnaie, comme si ça avait été la tête du clou. Enfermé. Ces stigmates lui causaient une vive souffrance, surtout celle du côté, à cause du frottement de sa robe, qui était souvent... Les moniales portaient des robes très en laine très dure, hein, des vêtements très... qui étaient lourds en plus de ça. Et ça lui permettait pas, en tout, le libre usage de ses mains. Elle était... Elle souffrait trop des mains, hein, causait plaies. Il y a aussi Sainte Véronique Giuliani. C'est 100 ans plus tard encore, reçu à 37 ans, le vendredi saint 1697, l'impression des stigmates. D'une manière assez semblable à celle de Catherine de Sienne, comme je vous ai raconté là tout à l'heure, c'est beau, hein, par le moyen de rayons resplendissants qui sortent des blessures du Christ qui lui apparaît dans une vision, comme elle le raconte elle-même, Sainte Véronique Giuliani. Mais c'était des stigmates visibles et apparents. Elle n'était pas cachée. Elle était soumise à un long et douloureux contrôle par l'ordre du Saint-Office qui a raison. Vous savez, on parle souvent du Saint-Office en mal, mais vous savez, le Saint-Office a aussi fait beaucoup de bien, qu'on dise ce qu'on voudra, à être assez sévère à l'égard de ces phénomènes-là. Car il faut être sévère dans notre Église. Il faut pas se laisser prendre par des hystériques. Hein. Les médecins l'ont examinée, lui ont appliqué diverses médications pour tenter de fermer les plaies. Et ils ont couvert ça de gants puis de bandes scellées encore avec le cachet de l'évêque. Le cachet de l'évêque, c'est de la cire fondue, là, puis on met le sceau de l'évêque sur le cachet. Comme ça, ça peut pas être brisé puis remplacé. C'est pour éviter toute supercherie, mais rien n'y fait. Sainte Véronique Giuliani garde ses stigmates durant 30 ans jusqu'à sa mort en 1627. Il y a aussi Anne-Catherine Emmerich, dont je viens de vous parler le 9 février dernier. C'est l'émission numéro 787. Je signale ça, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour vous servir. Moi, je fais pas un sou avec tout ça. Il y a des gens qui pensent que je fais du commerce. Mais non. C'est auprès de Marc Alexandre que vous pouvez vous procurer des cassettes d'Anne-Catherine Emmerich, morte en 1824, qui était également l'objet d'une enquête ecclésiastique rigoureuse en 1813, donc 11 ans avant sa mort. Et puis, elle a même eu une enquête gouvernementale 5 ans avant sa mort, en 1819. Ça comprenait des médecins, dont l'un, le docteur Wessner, l'a suivi pendant plusieurs années. Il notait ses observations. Il n'y a eu aucun traitement qui a réussi à guérir Anne-Catherine Emmerich. Et puis... il y a une stigmatisée au 19e siècle sur laquelle on a plus écrit. J'ai même un livre un peu négatif à son égard. C'est Louise Lateau, une Belge, et qui n'a pas vécu bien longtemps. Elle est morte à 33 ans en 1883. Elle a été examinée quand même dans des conditions exceptionnelles, d'objectivité scientifique, par deux médecins, le docteur Lefebvre et le docteur plutôt en Belgique, on disait Warlemont, qui étaient antagonistes quant à l'explication des phénomènes, mais qui ont concordé quant à leur description. Ils ont vu la même chose. Et le cas de Louise Lateau, L-A-T-E-A-U, a fait l'objet de toutes sortes de discussions, même à l'Académie royale de médecine de Belgique, pendant 2 ans, de 1874 à 1876. Puis ils n'ont pas été capables de conclure. Il y a aussi une qui a été contemporaine de Louise Lateau, mais qui est morte à 91 ans en 1941. C'est la paysanne bretonne Marie-Julie Jani, d'un petit hameau, là, dans la Loire-Inférieure. C'est intéressante parce qu'elle aurait présenté toutes les espèces possibles de stigmates, imitatifs, figuratifs, épigraphiques, comme on dit en langage scientifique, y compris l'anneau stigmatique du mariage mystique. Alors là, je me perds devant des cas comme ça et je m'inquiète de temps en temps. Mais je crois qu'il y a des stigmatisés authentiques ou à tout le moins qui le semblent vraiment et qui nous transforment. Et aujourd'hui, ben, c'est délicat, il est question des stigmates, des stigmatisés. Pour vous montrer comme c'est délicat, je vais vous mentionner, des gens qui aimeront peut-être pas ça, mais une stigmatisée qui était célèbre, qui est morte en 1888. Elle a attiré l'attention du docteur Imbert Courbert, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a publié un livre important en 1894. Il a visité très souvent, il lui a consacré 200 pages. Mais cette paysanne illettrée de Doria, près de Brindisi, est restée veuve. Et Palma Maria Mattarelli aurait connu une vie pleine de faits extraordinaires. Par exemple, vous savez, des communions miraculeuses, comme si un ange lui donnait la communion, on voyait personne, mais l'hostie s'avance. Mais le Saint-Office puis le pape Pie IX n'ont vu pour leur part que des impostures dans tout ça. Ils étaient sévères, hein? Et on a évité une condamnation publique, on a voulu calmer les choses et garder le silence là-dessus. Maintenant, passons à Sainte Gemma Galgani, qui est connue, qui est morte en 1903. Elle a vécu à peine 25 ans. Elle narre la stigmatisation, c'est-à-dire ses plaies dans les mains, le côté, les pieds, la couronne d'épines, etc., puis le sang qui coule. Ça lui est arrivé, elle, en 1899. Elle avait 21 ans. Lors d'une extase où des blessures du Christ sortaient... Elle voyait les blessures du Christ, puis il y avait des flammes de feu qui en sortaient, puis elle a déclaré « En un seul moment, ces flammes sont venues toucher mes mains et mes pieds et mon cœur, et je me sentis comme mourir. Le sang s'est mis à couler. Le phénomène se répétait chaque semaine le jeudi soir vers 20 heures. Il durait jusqu'au vendredi à 3 heures de l'après-midi, au moment de la mort du Christ le vendredi saint. » Comme on dit, et c'est très sérieux, Sainte Gemma Galgani serait, c'est bien, je cite, une pure gloire de l'Église catholique. Sainte Gemma Galgani. Maintenant, un type de stigmatisé psychonévrotique, c'est par contre la Madeleine, celle qu'on appelle la Madeleine, morte en 1918, à 60 ans. Pierre Janet a pu suivre durant 22 ans cette femme qu'on appelait la Madeleine. Il a étudié de près à l'hôpital parisien de la Salpêtrière, un hôpital comme Louis-Hippolyte Lafontaine ou Saint-Jean-de-Dieu, ou les hôpitaux pour malades mentaux, hein, comme Saint-Michel-Archange à Québec. Il l'a observé de 1896 à 1904. Pour lui, c'était du délire religieux, elle avait des sommeils extatiques. Alors, on se demande, est-ce que c'est une supercherie, même si elle était enfermée dans un asile d'aliénés? Il est probable que les phénomènes, qui apparaissaient de manière inattendue, mais dans les journées précédant le commencement de ses règles, puis en période de troubles circulatoires, s'est été favorisé par de fortes pressions sur la peau, des frottements, des grattages avec les doigts. Et l'observateur Janet, là, Pierre Janet, a jamais réussi voir qu'il se produisait par suggestion. Maintenant, il y a l'ouvrage de M. Pinault, Marie-Thérèse Noblet, servant de Notre Seigneur en Papouasie. Il a fait connaître cet héroïque missionnaire, qui a été aussi une extatique, même une possédée, une stigmatisée. Tout ça me gêne beaucoup. Elle est morte en 1930. Sa stigmatisation était figurative, sans saignement. Hein. Des cas pénibles, je ne sais pas. Aucune vérification médicale n'a d'ailleurs été opérée. Dans les études carmélitaines de 1938, on a écrit sur elle, ça a provoqué une controverse. Puis il y a Thérèse Neumann, qui est un des cas de stigmatisation les plus retentissants du 20e siècle. Elle est morte en 1962. Elle était de Konnersreuth, en Bavière, en Allemagne. Après une série de graves maladies puis de guérisons subites, c'est durant la Semaine Sainte de 1926, l'année de ma naissance, que commencent ces visions extatiques de la Passion. Avec pleurs de sang, des larmes de sang, étrange. Puis les stigmates, dont la forme et l'aspect ont d'ailleurs changé au cours des années. Il y a des photos d'elles qui sont plutôt terribles. Les descriptions par des personnes qui ont pu les voir à diverses époques sont pas tout à fait identiques. Hein? Le docteur Billot a parlé de cette énigme, on peut dire. Hein? Il y a aussi le docteur Van der Helst qui dit « Les stigmates des mains sont constitués par des plaies constamment béantes. » Dans l'intervalle des hémorragies. Sur la face dorsale des mains, là, ce sont des saillies noirâtres, sèches. Puis ça forme des petites pyramides comme des têtes de clous. Au point de vue physiologique, dit ce docteur Van der Elst, ces érosions revêtent un aspect de tumeur maligne, tout en présentant des attributs, des tumeurs bénignes. Tout ça, ça a été très discuté, Thérèse Neumann. Mais il y a des choses très intéressantes dans sa vie. Quoi penser? L'émotion était grande en Allemagne puis en dehors, hein. Il y a même des dossiers dans la documentation catholique de 1927. Il y a des qui s'intitule Les événements de Konnersreuth, où elle vivait. La polémique n'a pas tardé à s'instaurer d'une manière passionnée. C'est plutôt pénible. Certains théologiens, psychologues de langue allemande ont fait grand cas des expériences qui ont été faites par un médecin, Lechler, qui a été rapporté dans son livre. Il y a toutes sortes de choses qui sont autour de ça. C'est très difficile. Puis il y a le père Pio, le fameux père Pio, dont je vous ai parlé le 23 septembre 1997. Une émission qui a beaucoup plu. Le père Pio de Pietrelcina, un capucin italien, dans le sud de l'Italie, qui est mort en 1968. J'ai déjà été près de lui, d'une certaine façon. Enfin, j'ai été là, moi, pendant plusieurs jours. Je l'ai vu célébrer la messe plusieurs fois. J'ai vu ses plaies. Je me suis confessé à lui. De 1910 à 1918, il a des ébauches de stigmates, des rougeurs sur la paume des mains, accompagnées de vives douleurs, ou bien des douleurs seules, qui se sont faites sentir invisiblement, de façon intermittente. Et sa stigmatisation, proprement dite, a lieu le 20 septembre 1918. Elle dure toute sa vie. C'est à la suite de l'apparition impressionnante d'un mystérieux personnage, dit-il, dont les mains, les pieds et le côté saignaient abondamment. Il était âgé, à ce moment-là, ce capucin, prêtre, de 31 ans. De mai 1919 à juillet 1920, il est examiné successivement par 3 experts médicaux. Puis, pendant 48 ans, il n'y aura plus d'examen clinique, parce que le Vatican les interdit. L'autorité ecclésiastique a émis deux déclarations négatives touchant la surnaturalité des cas. On trouve ça dans les actes, Acta Apostolici C10, là, comme on dit en latin, en 1922-1924. Puis le père Pio lui-même ne consent pas à s'y prêter, d'ailleurs. Et certaines de ses plaies vont durer 50 ans, quelques-unes un peu moins. Vers la fin de la vie du père Pio, les stigmates commencent à se fermer. D'abord les pieds, puis le côté, puis le dos des mains. Et lors de la dernière messe qu'il a célébrée le 22 septembre 1968... on voyait encore le stigmate de la paume des mains, de la main gauche, dont la croûte va tomber au moment de sa mort, la nuit suivante, après sa dernière messe. Aucune trace de cicatrice. C'est très curieux tout ça. Et je vous rappelle qu'il sera béatifié le 2 mai prochain. Ce cher père Pio, il faut lire sa vie, hein, ou du moins écouter la cassette que j'ai faite. Ça vous donnera un résumé qui est passionnant. Il y a la stigmatisation aussi de Marthe Robin. Je vous ai fait une émission le 6 février 97. Je m'en excuse encore de mentionner ça. C'est l'émission 398. Il y a d'excellents livres sur elle. Il y a un livre qui coûte pas cher, qui vient de paraître il y a quelque temps, par Hubert Lelièvre, chez Pierre Tequi. C'est Marthe Robin, Je ne connais que l'amour. C'est tout petit. Ça a 55 pages. Très bien fait. Très bien fait. Marthe Robin, par Hubert Lelièvre, chez Pierre Tequi. Alors, la stigmatisation de Marthe Robin est advenue en octobre 1930. Elle est morte en 1981. Selon ses confidences, les dards de feu sont partis du cœur de Jésus. Ils sont venus frapper ses mains, puis ses pieds, sa poitrine, tandis qu'elle était dans la posture de la crucifixion, c'est-à-dire les bras étendus. Douleur intense, qui brûle. Et quand les stigmates furent lavés, écrit-on pour la première fois, ils apparurent d'un rouge bleuâtre, tantôt ouvert, tantôt pas ouvert. Quand il s'ouvrait, là, c'était des plaies qui saignaient. Alors, je lis le texte maintenant du père Finet, son directeur de conscience, le fameux père Finet. Les marques rouges bleuâtres durèrent un temps assez long, c'est-à-dire plusieurs mois. À la supplication de Marthe Robin, notre Seigneur a consenti à les effacer. Toutefois, elles sont réapparues, encore quelque temps après, mais sans s'ouvrir, comme une simple marque rouge bleuâtre, comme lorsqu'on se donne un bon coup. C'est violet rouge. Alors, ces marques ont disparu de nouveau au bout de quelques mois. C'est ce que raconte le père Finet dans l'Alouette, la revue du foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore. Hein? Vous savez qu'il y a un foyer de charité ici, à Sutton, dans en Estrie, au 83 principal nord. Vous pouvez téléphoner et vous faire des retraites et des récollections. Il y en a toujours au foyer de charité Villa Châteauneuf à Sutton. Je donne le numéro de téléphone 450-538-2203. Et je vous ai fait aussi le 3 février 98, donc il n'y a pas bien longtemps, une émission sur Mère Yvonne Aimée. C'est un des phénomènes les plus extraordinaires de l'histoire de l'Église. Elle est morte en 1951. Durant 27 ans, semble avoir eu les stigmates chaque vendredi. L'abbé Laurentin puis monsieur le docteur Maéo ont écrit les stigmates d'Yvonne Aimée de Malétroit dans le sillage de François d'Assise à Paris, 1988. Et ils en parlent assez longuement, page 117 en particulier. Elle a eu les stigmates chaque vendredi et ça affecte diverses zones du corps. Il y a de l'écoulement de sang, c'est le point commun, ça. Au total, 90 témoins différents les ont attestés, c'est ce qui est dit en page 163, sans toutefois que l'observation ait été poussée de manière scientifique. Et chez d'autres, bien, la stigmatisation n'a été connue de leur vivant que par très peu de personnes, comme un secret. C'est le cas de Adrian von Speer, je m'excuse, dont je vous ai parlé aussi le 17 septembre 96, c'est l'émission 296, Adrian von Speer, qui était sous la direction de Hans-Urs von Balthasar. Elle est morte en 1967, hein? Et c'est aussi le cas d'Antoine Crozier, qui est mort en 1916. Stigmatisé en 1901 pendant sa messe, Antoine Crozier a demandé que les stigmates d'abord visibles soient rendus invisibles. Il en a ressenti les douleurs jusqu'à sa mort. Hein. Il y a un livre sur lui paru en 1988, Le père Crozier, l'ami stigmatisé du père Charles de Foucault, par le frère Bernard Marie. Il y a aussi Myrna, la fameuse Myrna dont on vous parle parfois à l'émission l'après-midi de M. Gilbert Charon, qui est de Soufanié, en Syrie, et qui est stigmatisée. Si vous voulez voir ces stigmates, si vous voulez voir une émission fascinante sur elle, vous téléphonez à Montréal, Rassemblement son image. Vous savez, elle a été examinée par le docteur Laurent, qui explique les stigmates durant l'émission sur une cassette vidéo. Le docteur Laurent, neurologue à Paris, à la Salpêtrière. Alors, la cassette vidéo s'appelle « Soufanié, les stigmates ». Alors, cette maison de Myrna qui est devenue un lieu de prière à Soufanié, en banlieue de Damas, c'est absolument phénoménal. Je vous donne donc le numéro de téléphone de Rassemblement à son image à Montréal, 514-733-3564. Vous pouvez commander la cassette, je l'ai regardée il y a deux jours, fascinant encore, 733-3564. Dans les textes où l'on raconte ces histoires de stigmates, je m'excuse de l'expression, on trouve chez Sainte Marie-Françoise des Cinq Plaies, morte en 1791, qu'on voyait le jour à travers l'ouverture des mains. C'est un cas assez exceptionnel parce qu'en général, il n'y a pas de trou qui transperce vraiment les mains. De toute façon, ce qui est bien curieux, c'est qu'on sait que le Christ avait les trous dans les poignets. Problème qui se pose. Moi, je n'ai aucune solution à cette question. Si tous les extatiques ne sont pas stigmatisés, heureusement, il n'y a pas souvent de stigmatisés sans extase. Dans la majorité des cas, la réalisation des stigmates, on a vu, s'effectue au cours d'une extase. Hein? On le voit chez Sainte-Catherine de Ricci, Louise Matteau, etc., Thérèse Neumann, Marthe Robin, etc. Mais chez certaines stigmatisées, il y a pendant une durée valable des années parfois la suspension plus ou moins complète de la nourriture, ils ne mangent pas. Abstention totale de nourriture, ou pour ainsi dire complète. Impossibilité d'avaler quelques aliments sauf l'hostie lors de la communion. Le style leur sert d'unique subsistance. C'est le cas de Louise Latteau en Belgique, Marie-Julie Jaeny, Thérèse Neumann et Marthe Robin. Marthe Robin durant 50 ans. Elle a été très étroitement observée. Marthe Robin, elle est morte en 1981, je vous le rappelle. C'est évidemment un phénomène difficile à contrôler scientifiquement, mais l'inédit, comme on dit, inédit, c'est le fait de ne pas manger, ne se rencontre pas seulement chez les stigmatisés. Et c'est tellement de phénomènes. C'est très curieux, tout ça. Ce qui m'intéresse, moi, surtout, c'est de voir chez eux leur amour pour Jésus crucifié et ressuscité. Leur amour. Évidemment qu'il y a eu de faux stigmatisés qui se sont mutilés. Il y a eu des fraudeurs. Il y a eu des gens qui souffraient de névrose. Tout ça est sans intérêt. Et c'est pénible. Il y en a toujours. La terre est remplie de gens plus ou moins étranges. Mais en luttant contre un scientisme réducteur de tout le surnaturel, la majorité des auteurs catholiques de la fin du 19e siècle puis du début du 20e siècle considèrent les stigmates comme l'effet d'une cause intelligente et libre qui imprime divinement les plaies sur le corps des stigmatisés. Écoutez bien, pour les configurer à la passion du Christ et nous en rappeler le souvenir. Dans La mystique divine, un ouvrage paru il y a plus de 100 ans, il y dit le dernier mot de ces phénomènes, bien constaté, est le miracle. Parce que cet auteur qui écrit ça ne voit dans l'idéoplastie des gens qui luttent contre ça que du rationalisme et du naturalisme. On retrouve le mot miracle chez plusieurs auteurs. Est-ce qu'il y aurait des stigmates naturels? Le docteur Van der Els, dont je vous ai parlé tantôt, ne nie pas. Alors, faut faire attention pour pas tomber dans les excès. Et les vrais stigmatisés les cachent, ils n'en parlent pas. Ils ne s'en vantent pas. Dans un ouvrage, Le problème des miracles, on dit bien que la seule chose qu'on puisse affirmer en toute certitude, c'est que les stigmates ne peuvent trouver aucune explication dans quelques processus psychophysiologiques, les vrais stigmates. Aucun médecin, donc, et aucun théologien ne peut trouver, dans la science, les preuves que les stigmates sont d'origine psychosomatique. Il faut, dit-on, prendre acte du fait que la médecine ne sait pas ce que sont les stigmates. Le médecin n'a pas du reste à diagnostiquer le surnaturel même relatif. Il suffit qu'il constate qu'un fait est inexplicable scientifiquement. C'est la nature et la grâce pour juger d'une stigmatisation. Somme toute, le plus important, c'est d'examiner si l'on se trouve en présence d'un état de contemplation, infuse ou non. S'il y a contemplation infuse, on ne pourra douter de l'origine des stigmates. Ils font certainement partie du domaine surnaturel. Et les stigmates qui résultent d'une concentration religieuse extrêmement profonde sur la passion du Christ appartiendraient de même au domaine surnaturel. Parce que c'est pas possible sans le secours de la grâce, disent les auteurs les plus sérieux. C'est vraiment une attitude de l'Église. Rien n'a jamais été défini par l'Église, ne l'oublions pas, sur la nature et l'origine de la stigmatisation générale. Et la bulle de canonisation de François d'Assise en 1228 ne fait aucune mention de la stigmatisation. L'Église canonise pas les stigmates, elle canonise les vertus exercées par les saints, pas les grâces qu'ils ont pu recevoir. De toute manière, il n'y a pas de relation nécessaire entre la stigmatisation puis la sainteté. Faisons attention. On ne juge pas de la sainteté d'un sujet par sa stigmatisation, mais bien plutôt de sa stigmatisation par sa sainteté ou ses œuvres de sainteté. C'est ça qui compte, hein? Chez les stigmatisés, quand ils sont authentiques, c'est la passion du Christ rendue en quelque façon vive, contemporaine, que les croyants doivent vénérer. C'est ça qu'on doit vénérer. C'est le Christ d'abord. Je vous rappelle le titre du livre que j'ai mentionné au début de l'émission, « Trois stigmatisés de notre temps ». Thérèse Neumann, Padre Pio, Marthe Robin, ça ne coûte pas cher, c'est un petit livre de Jean Barbier, paru chez Tiki, c'est bien fait.